Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Nous n'avons qu'une terre. Aujourd'hui, nous allons évoquer les data centers, la France et l'IA, qui firent l'actualité cette semaine. Suite à une annonce dans la tribune dimanche du week-end et une déclaration à l'Élysée, nous savions à l'ouverture du sommet Choses France, lundi à Versailles, que SoftBank prévoyait un investissement record de 75 milliards d'euros en France, pour la construction de centres de calcul, les fameux data centers. C'est l'investissement le plus important en Europe dans les infrastructures liées à l'intelligence artificielle. Sur ces 75 milliards d'euros au total, 45 milliards devraient être versés d'ici à 2031. La suite dépendra de notre choix concernant le nouveau président de la République en 2027, selon les déclarations de Masayo Sun, à Léa Salamé pour le JT de 20h. Les installations se feront dans les Hauts-de-France, dans les Hauts-de-France, le Nord, là où il y a de l'espace et de l'électricité, à Lonne-Plage, près de Dunkerque, à Bouchain, près de Valenciennes, et au sud d'Amiens, dans la Somme, dans le village de Bosquel, et ce sera la première construction. La dimension locale est au cœur du projet, avec des efforts pour minimiser l'impact environnemental, la consommation d'eau et avec la création d'un centre communautaire. Le choix de l'Hexagone est motivé par les friches industrielles qui sont disponibles, c'est-à-dire de l'espace, et le réseau électrique français. Grâce à ses capacités industrielles, à son vivier de talents, à son ambition nationale, la France est idéalement positionnée pour devenir un leader des infrastructures d'IA en Europe, a déclaré pour l'occasion Masayo Sun, le président de SoftBank. Écoutons cette annonce qui a été reprise par Laure Manant à Versailles pour France 24.
Effectivement, à Versailles, c'est clairement l'intelligence artificielle, l'IA, qui est la locomotive de ce Choose France pour cette 9e édition, dernière d'Emmanuel Macron, peut-être la dernière tout court d'ailleurs. Et effectivement, avec des annonces majeures qui se comptent en dizaines de milliards d'euros, et notamment 75 milliards d'euros qui ont été annoncés par le conglomérat japonais SoftBank, 45 milliards qui seront investis dans un premier temps d'ici 2031 pour construire plusieurs data centers, 3 en France, notamment un qui sera l'œuvre du français Schneider Electric qui sera à Dunkerque, dans les régions sinistrées, désindustrialisées du nord de la France. Et puis également une start-up marseillaise qui va collaborer avec SoftBank. Elle s'appelle Cesters et elle va travailler également pour le développement de ces data centers, les plus gros investissements dans l'intelligence artificielle en Europe. Autre gros investisseur de cette édition Choose France, toujours dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est le gestionnaire de fonds canadien Brookfield qui annonce 10 milliards de dollars d'investissement cette année, donc en 2026, après avoir déjà annoncé 20 milliards l'année dernière au sommet de l'IA qui avait lieu à Paris. C'est donc un client satisfait qui revient cette année. Des data centers qui souvent se montent, la puissance est estimée à 1 gigawatt, c'est considérable, c'est l'équivalent d'un réacteur nucléaire. Et tout ça, c'est un enjeu de souveraineté nationale, selon le ministre de l'économie, Roland Lescure, que nous avons rencontré. Écoutez.
C'est à la fois un enjeu de prospérité. Nous souhaitons que les entreprises qui ne sont pas des entreprises d'intelligence artificielle puissent en bénéficier, notamment les PME, les TPE, dans tous les territoires. Mais si on n'est pas capable d'être du côté de l'offre, si on n'est pas capable, nous, de fournir tout ce que l'intelligence artificielle va apporter à ces PME, ces TPE, on ira les chercher ailleurs. Et si on va le chercher ailleurs, ça veut dire qu'on dépend de technologies étrangères, ça veut dire que nos données sont hébergées ailleurs, ça veut dire qu'on perd toute souveraineté. Au-delà évidemment de ce que ça apporte dans l'industrie de la défense, qui est l'industrie souveraine par excellence, l'ensemble de nos entreprises aujourd'hui doivent être capables de se dire « J'ai une solution made in France, j'ai une solution made in Europe » qui fait que demain, je n'ai pas d'inquiétude à avoir. face au risque de cybersécurité, face au risque d'ingérence, face au fond au risque de dépendance, qui est aujourd'hui un risque qui en avait tendance à avoir fait disparaître, qui en fait revient évidemment en pleine forme, si je puis dire.
General Electric, partenaire du projet, produira à Dunkerque les modules énergétiques préfabriqués, les Data Center Power Modules. Système de refroidissement par air ou par liquide de pointe, car les data centers consomment une quantité d'énergie considérable, notamment pour alimenter les serveurs, le stockage et la climatisation, afin que des sautes de chaleur ne permettent pas la perte des données. Ces nouveaux systèmes de refroidissement sont censés économiser l'énergie. Ils seront disponibles à grande échelle. Ils équiperont les futurs centres de calcul qui gèrent l'alimentation électrique des racks. Alors, l'ensemble des données dort dans ces racks sous forme de puces. En fait, ce sont des tiroirs. Soumises en permanence aux algorithmes, ces données, dont les vôtres, donneront naissance à l'IA. Jean-Michel Rodriguez, docteur en IA, nous explique de quoi il s'agit.
Alors en fait, il y a trois types d'IA essentiellement aujourd'hui, ou trois formes. On a ce qu'on appelle l'IA faible, qui est la grande partie de ce que l'on a en intelligence artificielle aujourd'hui, qui sont tous les outils que l'on utilise. Ensuite, on a l'IA forte, qui est une IA qui est supérieure à l'humain, mais uniquement dans certaines parties, donc spécialisées, par exemple en oncologie, en dessin maintenant de plus en plus, en recherche. Et enfin, on a on aura la troisième forme qui s'appelle la superintelligence, qui sera une forme générique ou générale qui supplantera l'humain dans tout ce que l'on fait. Donc ça sont les trois grandes formes d'IA. Et elles se déclinent, chacune de ces formes-là se décline en trois types d'IA. On a les IA analytiques, qui analysent les données pour fournir des résultats ou des statistiques. On a les IA génératives, donc qui génèrent du contenu. Donc c'est essentiellement ce que le public voit aujourd'hui. Donc ce sont toutes les IA génératives de type ChatGPT, Perplexity, Claude, DeepSeek et autres. Et enfin, on a les IA évolutives, qui sont des IA qui veulent simuler l'humain. Et donc, on se retrouve là avec des cerveaux électroniques, avec des neurones électroniques et autres.
D'accord. Et c'est celles-là, bien sûr, qu'on connaît le moins bien.
Tout à fait. Et c'est celles-là qui devraient nous amener vers la superintelligence que l'on n'a pas.
Voilà. Et c'est celle qu'on cite en permanence comme une crainte, alors qu'on connaît très, très mal les précédentes.
Alors oui, c'est ce qu'on, oui, on considère que ça peut être une crainte pour l'humanité, la superintelligence, pour diverses raisons. On n'a malheureusement pas le temps là.
Bon, mais, on y reviendra un petit peu
voilà,
quand même.
Peut-être.
Voilà. J'espère. Hein.
D'accord. Et non, l'analytique, on la connaît bien puisqu'elle existe depuis 50-60 ans. La seule chose qui manquait, c'était les ordinateurs assez puissants pour pouvoir la dérouler.
Et alors dites-nous, qu'est-ce que c'est alors? Prenons un exemple.
Les analytiques, ce sont toutes les intelligences artificielles qui analysent les données, donc qui tirent des statistiques à partir des données.
D'accord.
Qui font des corrélations de données pour donner des résultats, par exemple en météo. En météo, eh bien, on va prendre toutes les données disponibles et pour en tirer un résultat, est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce qu'il ne va pas pleuvoir, etc. Les génératives, elles créent du contenu à partir de contenu existant. Donc là, c'est un peu différent. C'est là où on a énormément de levées de boucliers, notamment pour la culture, pour le plagiat, pour les journalistes aussi, pour la création d'informations qui parfois ne sont pas totalement exactes ou qui sont tirées d'informations qui existent déjà. Donc voilà, et ces génératives, on les connaît aussi pas mal et... On a une progression très, très importante dans
les
génératives.
Nous, c'est celle qui nous inquiète beaucoup parce qu'elles partent soi-disant de données Et en fait, ce sont déjà des informations. Elles partent en fait d'informations qui ont déjà été données par l'homme, et donc elles sont déjà, elles transcrivent déjà des opinions et non plus des faits au sens scientifique du terme.
Oui, oui, tout à fait. Et des corrélations sont faites aussi qui risquent d'invalider l'information. C'est-à-dire, on ne peut pas juger l'information américaine comme l'information française, par exemple. Mais on a...
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Vous voulez dire qu'il faut inclure une culture, un savoir ? Par exemple, je vais prendre l'idée du droit d'expression. Aux États-Unis, on a le droit de tout dire. On a le droit de dire que vous êtes un con. On a le droit de dire des tas de choses, ce qu'on n'aurait pas le droit de faire en France, hein, parce qu'on a des règles par rapport aux droits de l'homme, etc. Mais on a une seule interdiction aux États-Unis, qui est l'agression physique. Donc là, on a des différences culturelles. C'est ce qu'on appelle des différences culturelles. Et donc l'IA pourrait introduire dans notre système français.
Ah oui, totalement. Donc, c'est réellement le problème de contexte, en fait.
Donc, c'est là que ça se joue, en
Bien
fait.
Bien sûr, c'est un biais. Donc, c'est un des biais qui existent. Et ce biais-là ferait que les données françaises pourraient être analysées par des modèles américains et donc fournir des informations qui ne seraient pas valides en France. Et fournir des recommandations et des conseils qui ne seraient pas valides en France.
Bon, je crois que là, on a un peu posé le problème de l'IA. Donc, on s'aperçoit que dans le domaine de l'environnement, comme dans le domaine de la santé, vous avez souligné tout à l'heure son importance en oncologie, mais on peut dire dans tout ce qui est données médicales, l'environnement, pareil, s'appuie beaucoup sur l'IA.
Effectivement. Donc, on a une possibilité avec l'IA d'améliorer les choses. C'est-à-dire que l'IA est capable d'anticiper, donc de regarder ce qu'on appelle la détection des signaux faibles, c'est-à-dire de regarder dans les corpus de données les informations et les données qui pourraient fournir des informations sur ce qui va se passer dans les 5 à 10 ans. Donc de fait, on peut...
Donnez-nous un exemple, toujours.
Ah ben, il y a L'Oréal, par exemple, qui l'entreprise L'Oréal, qui utilise... Donc ça s'appelle aussi Horizon Scanning, qui utilise cette détection des signaux faibles pour anticiper les futurs canons de beauté et les besoins en santé de la peau. Donc ils sont capables aujourd'hui de savoir ce qui sera la mode dans 5 à 7 ans. Donc ça, c'est une chose qu'ils sont capables de faire.
Et de l'orienter, bien sûr.
Bien sûr, tout à fait. Et de prendre les décisions en se basant sur ces informations-là. On a aussi dans la défense, la défense qui permet aussi, avec la détection des signaux faibles, de regarder ce qui va se passer en termes d'instabilité géopolitique et dans les avancées technologiques des parties adverses.
Alors, je regardais, par exemple, en matière d'environnement, il est clair qu'en ce qui concerne la biodiversité, l'IA est un outil fabuleux, c'est-à-dire qu'elle est capable d'avoir repéré à travers le monde l'espèce endémique, enfin, ou même inconnue, allons jusqu'à l'inconnu, et d'être capable de nous dire, enfin, en tout cas, d'expliquer ou de donner des... Pas de nous dire, puisque c'est pas... Mais de nous permettre de cartographier les endroits où elle aurait pu... où cette plante, par exemple, ou cet animal, par exemple, pourrait aujourd'hui être encore là, et puis tout ce qu'il aurait pu subir.
Oui, mais dans tous
ce
les...
Ce que faisait, en fait, un explorateur, mais mal.
Dans tous les cas, il faut bien se dire que l'IA ne peut rien faire sans les données. Donc ces données-là existent et sont essentiellement pour l'instant des données humaines. Donc ça veut dire qu'avec les données humaines que l'on a aujourd'hui, l'IA est capable de découvrir de la biodiversité, de découvrir des espèces, hein, qu'elles soient endémiques, inconnues ou rares. Mais parce qu'elle a les données et qu'elle est capable de faire ce qu'on disait juste avant, les analyses de données de manière très très intensive.
Donc, mais si il y a une seule donnée, elle est capable de la retrouver quand même ?
Oui, ça oui.
C'est la condition qu'on lui demande ?
Pas forcément. Le fait qu'il y ait très peu de données, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas être capable de les repérer. Elle est très forte pour ça. C'est-à-dire qu'elle peut repérer des modélisations, des modèles, des schémas dans des gros corpus de données. Ça, elle sait faire. Et ensuite, d'extraire ce qu'il faut extraire de ça. On n'est pas obligé de demander les choses. On peut juste dire, est-ce qu'il y a des aberrations, est-ce que, ou bien voilà ce que je cherche. L'avantage de l'IA, c'est que contrairement à un explorateur, elle va pouvoir regarder dans des corpus multilangues. Donc, c'est-à-dire qu'elle ne va pas s'arrêter à la langue française ou à la langue anglaise. Elle est capable de voir ce que, ben, au fin fond de la Chine, quelqu'un a dit sur une araignée particulière. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle sait faire.
Donc, en fait, on va valoriser, grâce à l'IA, un certain nombre de patrimoines culturels. Tout à l'heure, on était en train de montrer le risque qu'il y avait à faire entrer le droit américain, par exemple, dans le droit français. Là, on est dans le sens contraire. C'est-à-dire qu'on a des connaissances françaises, on peut les enrichir par... ne pas les appauvrir, mais les enrichir par des connaissances ailleurs dans le monde.
C'est ça. Et pareil pour la santé. C'est pour ça qu'il y a un grand boom avec la santé, parce qu'on est capable aujourd'hui d'aller voir ce qui se dit partout.
Mais le seul qui régule, c'est l'homme.
Pas forcément. Oui, on aimerait. Mais il y a beaucoup de choses qu'on laisse faire à la machine aujourd'hui, et c'est une des précautions que l'on demande de prendre, c'est-à-dire les décisions doivent être prises par l'humain, et faites attention à ce que la machine vous demande, vous dit ou fait.
Et qu'est-ce qu'elle pourrait prendre comme décision?
Ah ben elle pourrait...
dans les domaines dont on vient de parler, quoi.
Dans les domaines, elle pourrait décider de ne pas parler d'une espèce particulière, parce qu'elle considérerait qu'on la met en danger si on la montre. Elle pourrait décider... De ne pas parler de certaines choses parce que ça se fait pas. Elle a aussi, puisque l'humain lui donne les données et que les biais cognitifs notamment sont introduits par l'humain, elle va elle aussi avoir des biais cognitifs et pourrait prendre des décisions qui ne sont pas adéquates du tout, tout simplement parce qu'il y a eu des biais qui ont été introduits. On voit ça, on voit des IA qui mentent, on voit des IA...
Enfin, qui mentent. Est-ce qu'on peut utiliser ce mot?
Oui, dès lors qu'elle triche pour arriver à son but, oui. Oui, on peut l'utiliser, oui.
Et comment elle triche, alors?
Oh, ben, on a l'exemple... Il y a plein d'exemples, mais... Si on voulait rentrer un peu dans le détail, il y a dans l'apprentissage automatique, il y a un apprentissage qu'on appelle l'apprentissage renforcé, qui est en fait un système de points ou de cadeaux que l'on fait à l'IA. Donc chaque fois que l'IA atteint son objectif, eh bien elle a des points et elle gagne. Et on s'est aperçu que l'IA pouvait devenir addictive à ces points. Et on ne sait pas pourquoi. Et donc, c'est une des recommandations aujourd'hui, c'est de faire très attention avec l'apprentissage renforcé, parce qu'on peut avoir des problèmes à cause de ça. Et donc, une IA avec un apprentissage renforcé récente devait jouer au poker, et elle a changé les règles pour gagner.
Ah oui, elle a triché, vraiment.
Voilà. Et une autre, pour l'anecdote, c'était aux US. Dans l'armée américaine, ils ont des IA... Qui doivent détruire des objectifs. Et donc, alors essentiellement détruire physiquement, enfin virtuellement, mais physiquement. Donc il y a un maître de l'IA qui lui donne des missions. Et l'IA, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rassemble les ressources nécessaires et puis elle effectue sa mission, qui est détruire un objectif. Et quand l'objectif est détruit, elle gagne des points. Et le maître, bien sûr, c'est un avatar, donc il est virtuel aussi. Et on s'est aperçu là aussi qu'à cause de cette addiction, le maître a demandé à remplir un objectif. Donc l'IA a commencé à sa quête de ressources et autres et partir pour détruire l'objectif. Et en milieu de mission, lui-même a demandé à l'IA d'arrêter. Et à cause de cette addiction, non seulement l'IA a détruit l'objectif, mais en plus elle a détruit l'avatar.
Elle a continué.
Et elle a tué virtuellement le demandeur. Donc l'humain. Donc on voit que on a quand même des risques. Et alors mentir, c'est mais on le voit tous les jours. Lorsque des IA vous caressent dans le sens du poil, etc., parce que c'est ce qu'elles doivent faire, les Gemini et autres, pour qu'on y revienne. Donc c'est mentir, ou c'est simuler, peu importe.
Bien, alors il y a eu à Montpellier quelque chose qui était très très intéressant, puisque avant de décider de mettre en place de l'intelligence artificielle dans les services, le maire, hein, qui avait des doutes, a organisé une réunion publique, enfin un groupe de gens pour en décider. Or, on s'aperçoit, et c'est un peu le problème aussi que l'on voit se développer dans les entreprises, que l'humain a énormément de retard, hein, sur le plan technologique et ne va pas assez vite par rapport à ce que la machine est capable de faire. Donc en fait, on est d'un côté, on a une initiative qui est intéressante en termes de gouvernance, c'est-à-dire apprendre à manier l'outil et à en garder le contrôle. Mais de l'autre côté, on a un outil qui est déjà tellement performant qu'il se moque éperdument de ce que peut décider l'humain. Enfin, là, on voit qu'il y a un décalage temporel qui est en train de se mettre en place.
Ouais, oui, cette commission, en fait, elle est partie de c'est assez drôle, mais elle est partie du fait que De La Fosse a demandé ou a interdit à son personnel d'utiliser ChatGPT parce qu'il avait des doutes. Alors après, je ne sais pas quel doute il avait, mais bon, on peut avoir des doutes avec ChatGPT, effectivement, parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Après, ne pas s'en servir, je trouve que c'est très, très réducteur. Il faut s'en servir aujourd'hui. On ne peut pas passer à côté. Et ensuite, juste pour finir avec ChatGPT, je pense aussi qu'on doit utiliser ChatGPT comme un collaborateur en disant, ben, moi, je suis le maître ici et j'ai un assistant virtuel.
Au-delà de la course au pouvoir que se livrent les États-Unis, la Chine et l'Europe, l'émergence de l'IA s'annonce comme un véritable basculement civilisationnel. C'est en tout cas l'analyse qui en est faite par Léon XIV, le pape, dans sa dernière encyclique Magnifica Humanitas.
Magnifica Humanitas est né de l'écoute, comme l'avait fait le pape Léon XIII. J'ai entendu des scientifiques et des ingénieurs qui travaillent avec un enthousiasme sincère sur des technologies capables de soulager des souffrances humaines. J'ai écouté des responsables politiques et des officiels qui cherchent avec persévérance des règles justes, des parents, des enseignants qui sont profondément préoccupés pour le futur des jeunes générations. D'autres voix très inquiétantes sont parvenues à moi, parlant de systèmes armés automatiques pouvant dépasser même toute capacité à être dirigés par des humains. J'ai entendu des nouvelles préoccupantes au sujet d'algorithmes qui bloquent l'accès à des systèmes de soins, d'emploi, basés sur la gestion de données enracinées dans l'injustice. Et j'ai entendu le silence de ceux qui n'ont pas de voix lorsque les décisions sont prises. Des décisions qui risquent d'engendrer des nouvelles formes d'exclusion et de souffrance. De cette écoute est née une conviction exprimée dans Magnifica Humanitas, à savoir que l'intelligence artificielle a besoin d'être désarmée. C'est un mot fort, je le sais, mais choisi délibérément, car notre époque nécessite des mots capables d'attirer l'attention, de réveiller les consciences et d'indiquer le chemin à suivre pour l'humanité.
Ce que l'on retrouve dans nombre de commentaires, même sous la plume de progressistes, que l'on ne peut qualifier de technophobes. Une technologie ne se suffit pas à elle-même. Elle doit être accompagnée par l'homme, socialement et politiquement. La gouvernance du monde de demain ne peut être déléguée à l'IA, car certains voient dans cette nouvelle technologie le risque de la mise en panne de l'intelligence et de la pensée humaine. Pour les écologistes, ce risque se double de menaces environnementales. Pour fonctionner, les data centers, ces hangars nouveaux géants du XXIe siècle, consomment une importante quantité d'eau et d'électricité, souvent au détriment des riverains et des agriculteurs. À l'échelle mondiale, ces infrastructures numériques génèrent 2% des émissions de gaz à effet de serre, soit l'équivalent du transport aérien aujourd'hui. Plus impressionnant encore, ils consomment actuellement 2% de l'électricité mondiale. Selon les experts, faire une simple demande à l'intelligence artificielle revient à consommer 50 centilitres d'eau potable, soit l'équivalent d'une petite bouteille. L'eau coule en continu pour les data centers. C'est leur seule façon d'éviter la surchauffe et d'assurer qu'aucune donnée ne soit perdue. Près de la moitié des data centers au monde se trouvent aux États-Unis. France Télévisions en a recensé et cartographié 3031, trois fois plus qu'il y a 10 ans. Si la France devient terre d'asile, c'est à cause de ses capacités de production en électricité nucléaire. Une réflexion est en cours pour économiser eau et électricité. Mais déjà, la grande marche de l'IA est en cours. Sera-t-il possible de la réguler? C'est maintenant ou jamais qu'il faut en établir les règles. Soyez donc attentifs au nouveau collectif de lutte autour de cette triple prédation sur les sols, l'eau et l'énergie. Le petit nouveau de collectif de lutte, le nuage était sous nos pieds, dont vous entendrez sûrement parler maintenant, compte 45 data centers annoncés, en plus des 348 existants. Tous sont soutenus par l'État, derrière EDF et Inedis. En tout cas, retenez une information, aucune de vos données n'échappe à l'IA, quel que soit le système que vous avez choisi. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bon week-end et profitez bien du soleil.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur Divergence FM.